Il y a le bruit des klaxons de ces véhicules qui ont tenté en vain de rejoindre Bruxelles. Il y a leurs revendications principales, anti-pass sanitaire, anti-contrainte Covid. Et puis il y a comme une musique de fond, cette complainte en filigrane dans les discours, celle de la vie trop chère, l'essence qui flambe, le logement qui pèse sur le budget des foyers. Sur ce plan-là, au moins les convois de la liberté sont un écho des préoccupations, l'inquiétude face à ces prix qui grimpent chez nous, près de 3% de plus en janvier, un rythme qui devrait se maintenir et peut-être même accélérer jusqu'au mois de juin. Tendance récente qui change notre façon de consommer. On en parle aujourd'hui avec Pascale Hébel, directrice du département consommation au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Alors je le disais à l'instant, Pascale Hébel, les prix augmentent en ce moment de près de 3% par mois. Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui flambe en réalité?
Alors ce qui a surtout flambé en fin d'année dernière et qui continue de flamber, c'est évidemment l'énergie. Donc ce soit l'énergie pour le logement, le carburant qui fait des croissances de 15%, donc c'est énorme et ça dure depuis 3-4 mois. Et ce qui va augmenter dans les mois à venir, c'est l'alimentation qui commence à augmenter au mois de janvier.
Alors pourquoi ça commence maintenant ?
Alors il y a un décalage qui est lié en fait à la fois aux récoltes et l'impact de l'énergie. Il faut savoir que sur l'industrie agroalimentaire, le poids de l'énergie est très important. Et on a eu des baisses de récoltes importantes en blé, maïs, au niveau mondial, ce qui fait que les cours augmentent fortement. Et c'est ça qui fait qu'il va y avoir une répercussion. En ce moment, on est en période de négociation commerciale entre la grande distribution et les producteurs.
Qui doivent arriver à fixer les prix, au final.
Qui doivent arriver à fixer les prix. Et donc, on peut imaginer qu'en mars, alors même si les négociations sont très dures en ce moment, on aura une inflation sur l'alimentation.
Et ça se sent dans le budget des Français, déjà, cette hausse à la fois de l'alimentation qui arrive et puis de l'énergie qui est en cours.
Oui, alors sur l'énergie, en octobre, par exemple, l'INSEE a mesuré que sur le mois d'octobre, il y a eu, pour en moyenne pour les Français, une hausse de 25 euros liée à l'énergie. Et ça touche évidemment des catégories très très différentes. Et c'est vraiment sur le poids du logement qu'il y a vraiment des inégalités très très fortes entre les différents foyers.
Mais le logement n'a pas tant augmenté que ça, si on vous écoute. C'est plutôt, vous disiez, l'énergie, l'alimentation. Donc pourquoi?
Oui, alors ce qu'on appelle le logement, c'est y compris les loyers, mais aussi toute la partie chauffage, aussi l'eau, etc., réparation des logements. Et c'est bien parce qu'il y a une hausse de l'énergie qu'on a une inflation qui est forte. Et ce qu'il faut noter, il y a une étude qui a été faite par l'INSEE en 40 ans, les inégalités sur le logement sont énormes. Entre les 20% les plus pauvres par rapport aux 20% les plus riches, on est aujourd'hui à un écart de 10 points sur le poids du logement, ce qui veut dire que dans les ménages les plus faibles, ça pèse 43% tout le post-logement, c'est-à-dire énergie plus loyer plus réparation.
Donc, près de la moitié de leur rémunération.
Près de la moitié de leur budget, alors que c'est que 23% pour les 20% les plus riches. Et cet écart-là, qui est de 20 points, en 1980, il était que de 3 ou 4 points. Donc en fait, il y a un grand ciseau entre les plus modestes et les plus riches sur ce poids du logement. Et comme c'est l'énergie qui aujourd'hui augmente, c'est la moitié du budget logement, c'est ça qui fait qu'il y a des difficultés très forte du côté des plus modestes.
Vous nous l'avez dit un petit peu, Pascale Hébel, mais du coup, qui sont les personnes les plus touchées? Effectivement, les plus modestes, donc c'est une question de classe sociale, je dirais. Est-ce qu'il y a une répartition géographique aussi ou...
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'a montré cette étude de l'INSEE sur le mois d'octobre 2021. C'est vraiment dans les zones rurales que le poids de l'énergie pèse le plus, hein, donc c'est beaucoup plus, donc c'est 3 fois plus sur le mois d'octobre dans les zones rurales par rapport aux très grandes villes, tout simplement parce que quand on est en zone rurale, on habite dans des maisons, les maisons sont beaucoup moins isolées que les appartements, les surfaces sont plus grandes en moyenne pour le foyer, et puis pour les zones rurales, on a plus souvent besoin de sa voiture pour aller travailler. Donc comme il y a hausse aussi sur le carburant, eh bien c'est dans ces zones-là qu'on a le plus de difficultés. Et évidemment, à Paris, c'est là qu'on a le moins d'écart en fait, hein, avec la hausse. Il y a moins d'impact de la hausse de l'énergie à Paris que dans les zones rurales.
Marie nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Marie.
Oui, bonjour France Inter, merci de prendre ma question. Bonjour madame. Alors moi, c'est par rapport à l'INSEE, parce que par rapport à tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas revenir sur l'augmentation de l'énergie, le logement, etc., je trouve qu'il y a une prise en compte qui n'est pas faite par l'INSEE, c'est qu'il y a une perte dans la qualité, donc une perte de pouvoir d'achat qui oblige à ce moment-là soit à renouveler, soit effectivement à avoir des moyens supérieurs pour pouvoir la même qualité, avoir la même qualité. Je vais prendre un exemple que tout un chacun peut éventuellement voir et comparer, c'est-à-dire que les vêtements paraissent, par exemple en coton, paraissent tout à fait d'un prix effectivement abordable, mais qu'il faut soit renouveler souvent, soit en regardant les étiquettes, constater que la quantité de coton n'est plus du tout la même que celle qui existait auparavant. Donc si je veux acheter par exemple du coton, des serviettes éponges en coton, soit je m'adresse à quelqu'un qui me vendra une serviette plus chère, soit je serai obligée de renouveler très souvent ma serviette. Voilà.
Problème de qualité, donc, parce qu'elle est belle. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc il y a ces effets-là sur ce type de produit. On a aussi, quand il y a beaucoup d'inflation, des techniques marketing qui sont de vous proposer, par exemple dans l'alimentation, des produits dans des contenants plus petits pour pas que vous vous rendiez compte de l'inflation. Sur la qualité, il y a d'autres effets, mais qui sont à l'inverse de ce que vous venez de décrire. C'est le fait que vous êtes obligé aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui se rasent, d'acheter des rasoirs avec 4 ou 5 lames. Ça n'existe plus, des rasoirs avec une lame, et donc c'est beaucoup beaucoup plus cher. Donc c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que sur le marché, sur un ordinateur par exemple, si vous achetiez le même ordinateur qu'il y a 20 ans et qu'on pouvait l'acheter, il coûterait très très peu cher, mais il y a tellement d'innovations que finalement ça vous coûte plus cher d'acheter un ordinateur, et c'est ce qu'on appelle l'effet qualité.
Oui, c'est ce que je lisais ça dans un article d'un de nos confrères journalistes, c'est que une partie de la majorité en off, hors micro, disait que finalement les Français étaient aujourd'hui plus exigeants, ils voulaient plus, ils voulaient leurs abonnements Netflix, ils voulaient certains des piscines, alors ça c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, est-ce que finalement il y a aussi une frustration sur le pouvoir d'achat parce qu'on a besoin de plus aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est l'effet lié au désir de consommer plus et d'accéder à des innovations dans les nouvelles technologies. Donc du côté des téléphones, hein, c'est là qu'il y a des croissances très très fortes en achat parce qu'il y a des innovations tous les jours, enfin tous les ans, il y a des produits qui sont plus performants qui sortent. Donc ça crée cet effet de frustration. Et il y a une autre chose qui se passe depuis une vingtaine d'années, c'est que quand il y avait une inflation il y a 40 temps, tous les produits augmentaient à peu près de la même valeur, alors qu'aujourd'hui il y a des prix qui augmentent beaucoup et d'autres qui baissent. Et donc si je reprends de la nouvelle technologie par exemple, eh bien il y a des biens comme l'habillement en effet qui baissent, sur lesquels il y a des prix en baisse, et donc il y a des écarts très très importants, donc on a du mal aussi à percevoir la réalité de l'inflation en moyenne.
Isabelle Des Hauts-de-Seine a appelé France Inter, bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Pascal Hébel?
Oui, une remarque. En fait, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par l'intervenante précédente. Et effectivement, moi, je relevais un aspect marketing. Madame vient d'en parler à l'instant en disant qu'on avait affaire à des contenants plus petits. Effectivement, moi, je suis parfois frappée quand j'attrape un paquet dans un rayon de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me paraît bien léger et en effet, il s'est nettement allégé. On voit des paquets d'un kilo de légumes, par exemple, qui sont d'abord passés à 900 grammes, puis qui sont passés à 750, sans qu'il y ait de baisse de prix. Voilà, et je voulais simplement dire que le consommateur n'est pas aveugle. On s'en rend parfaitement compte, mais on est impuissant, malheureusement.
Alors, Pascal Hébel, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, de cette astuce de diminuer un peu la quantité pour le même prix. Il y en a d'autres, des comme ça?
Ah, il y a tout un tas de choses qui peuvent en effet vous donner l'impression que c'est moins cher, hein. Donc c'est cette partie-là où on diminue la quantité, et c'est diminuer la qualité sur des biens qui pourraient durer plus longtemps. Et en fait, le produit, il est plus fragile et donc il se casse plus facilement, et ce qui fait qu'il faut le renouveler. Alors qu'on est dans une période où on va quand même vers plus de réparabilité. Il y a des lois qui sont passées au niveau européen et qui demandent tout un tas de biens, comme tout l'électroménager, pour que ce soit l'inverse, en fait, hein, pour que les produits soient de plus en plus durables, que vous puissiez changer les pièces détachées et que vous fassiez réparer plutôt que de changer d'objet. Donc, c'est ces calculs-là qu'il faut faire. C'est d'investir un peu plus, payer un peu plus cher pour que les produits durent plus longtemps.
Gérard nous appelle de Dordogne. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour.
Votre question à Pascal Hébel.
Oui, voilà. Oui, je souhaiterais qu'on puisse évoquer la retraite des retraités, qui a parfaitement baissé depuis que M. Macron est là, alors que lui-même avait prévu, lors de sa campagne, qu'il aurait maintenu le pouvoir d'achat.
Alors, Pascal Hébel, en fait, c'est une question peut-être un peu plus générale, mais c'est vrai que si on regarde les études de l'INSEE, le niveau de vie moyen des Français a augmenté ces 5 dernières années. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ont l'impression que ce n'est pas le cas?
Alors, il y a en effet, sur certaines catégories de population, donc on sait que le SMIC suit l'inflation. Par contre, les retraites, non. C'est-à-dire qu'on a, on indexe plus le niveau des retraites sur l'inflation. Donc, ces catégories de population des plus âgées sont celles qui vont perdre le plus de pouvoir d'achat. Si on regarde sur tous les derniers mandats présidentiels et si on fait un peu une estimation sur le mandat actuel, c'est vrai que le pouvoir d'achat, il augmente vraiment de la même, du même ordre. Hein. C'est 0,7% entre 2007-2012, 0,8% entre 2012-2017 et entre 2017-2022, ça sera à peu près 0,7%. Donc, quelles que soient les périodes, on a plutôt la même hausse de pouvoir d'achat. Mais il y a des catégories qui subissent. Et ça, sur les retraités, on sait que c'est chez les retraités qui avaient en moyenne le plus gros taux d'épargne. Et donc, c'est un choix qui est fait. C'est ceux qui consomment assez peu en moyenne. Et donc, c'est un choix qui est fait, en effet, de baisser dans ces catégories-là pour pouvoir l'augmenter dans d'autres catégories. Il y a des parties de la population qui souffrent beaucoup. Ce sont les étudiants. Hein, parce que, notamment, ils ont eu deux étés où ils n'ont pas pu travailler. Et c'est ceux chez qui on voit le plus de difficultés. C'était pas le cas auparavant.
Alors, sans prendre parti pour l'un ou l'autre candidat pour la présidentielle, parce que c'est pas votre travail, mais est-ce qu'il y a une mesure qui est plus efficace qu'une autre pour répondre à cette question du pouvoir d'achat? La majorité, elle a, par exemple, plafonné les prix, elle a versé aussi une indemnité. C'est quoi l'outil qui est efficace? Une baisse des taxes, d'après vous?
Étant donné les inégalités très fortes qui existent sur le logement, ce qui est très important, c'est en effet d'investir sur les logements sociaux et en effet de donner du pouvoir d'achat à certaines catégories des populations. C'est vrai qu'en baissant les APL et en ayant réduit finalement l'argent mis pour faire des logements sociaux, c'est pas une bonne mesure. Il faut absolument proposer des investissements pour construire plus de logements pour des catégories qui ont moins de moyens, pour les étudiants, des logements sociaux pour les étudiants et faire des choses pour que il y ait moins de précarité énergétique, donc aider à l'isolation des bâtiments. Il va y avoir des réglementations qui vont faire que ça va coûter très cher, en fait, hein, d'entretenir les logements. Donc je crois que vraiment le point d'accroche, c'est vraiment ce poids du logement qui est un tiers des budgets en moyenne des Français et qui ne font que croître. On est le pays d'Europe où ça pèse le plus, le logement, tout compris énergie plus location de logement ou achat de logement.
Donc avec des aides ciblées type chèque
Voilà, il faut vraiment cibler. Puisque ça ne pèse que 15-20% chez les plus aisés, il ne faut pas aider les plus aisés à payer leur énergie ou leur logement. Il faut aider ceux qui ont des logements qui coûtent cher. Et donc, il faut le chèque énergie est une très bonne mesure. Le chèque inflation est une bonne mesure, même s'il a été un petit peu saupoudré, un peu trop large. C'est des mesures ciblées dont on a besoin.
Pascal Hébel, économiste et directrice du département consommation du Crédoc, merci d'être venue sur France Inter.